Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, je vais faire un épisode spécial pour la Saint-Jean-Baptiste. Donc, deux aspects. De un, on va parler du symbolisme de Saint-Jean-Baptiste lui-même. Puis, deuxièmement, c'est quoi le rapport avec les Canadiens français? Pourquoi c'est devenu notre fête nationale? Puis, est-ce qu'il y a des liens spécifiques, dans le fond, entre Saint-Jean-Baptiste puis le Québec? Fait que...
Attends, je veux juste faire une annonce avant que les gens commencent ce que je viens de penser. C'est que depuis qu'on fait plus de choses sur le Québec, on dirait qu'il y a un petit peu plus de... c'est un peu différent, le type d'attention qui se passe, c'est un peu différent. J'ai été sur un podcast québécois qui s'appelle « Hello veut savoir ». C'est la première fois que je vais sur un podcast québécois. Alors, si vous ne savez pas, vous pouvez regarder. On peut bien peut-être mettre le lien dans les descriptions. C'est assez intéressant parce que je ne sais jamais quoi dire dans le milieu québécois, parce que les gens ont différentes références, disons, puis différents niveaux de tolération pour différentes choses. Fait que ça peut être intéressant que pour les gens puissent aller voir ça.
Parfait, je vais mettre un lien dans la vidéo en bas. Puis, ben, continuons, commençons avec Saint-Jean-Baptiste. Donc, pour commencer, disons, le symbolisme fondamental de Saint-Jean-Baptiste, selon toi, Jonathan, c'est quoi?
Ben, je pense que, tu sais, c'est vraiment l'idée d'être la fin de la ligne de prophètes, puis aussi l'idée qui est un peu celui qui prépare le chemin pour le Messie. Et donc, tout son symbolisme est relié à ça, le fait qu'il est comme sur le Jourdain, il est comme à la limite de la ville, tu sais, et puis il fait traverser les gens le Jourdain comme une sorte de baptême. Mais tu sais, il faut se rappeler que dans l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance a traversé le Jourdain aussi pour revenir dans la Terre Sainte. Fait que c'est comme une sorte d'initiation qui amène les gens vers l'intérieur, mais lui-même... On pourrait dire un peu comme Moïse ou un peu comme c'est des personnages qui viennent avant. Lui, il entre pas directement dans le royaume, on pourrait dire. Là, il est comme à la porte puis il est en attente. Fait que ça, c'est un peu comme ça que je vois son symbolisme. Puis aussi, il y a aussi tout l'aspect de son style de vie un peu plus ascétique, un peu plus combattant, tout cet aspect-là aussi. Là.
Sur la fin, une des choses qui me frappe toujours, c'est que c'est le fils d'un grand prêtre, puis qui s'en va comme de Jérusalem pour aller habiter dans le désert, loin de Jérusalem. Puis pas longtemps avant que Jérusalem soit détruite, là, c'est comme il part d'un monde qui est en train de se terminer.
Ouais. Non, c'est sûr que ça a le rapport. Puis tu sais, il y a quelque chose aussi par rapport à la fête, le fait que la fête de Saint-Jean-Baptiste, c'est comme au milieu de l'été, c'est relié avec le solstice, tu sais, il y a comme un lien avec le solstice d'été, puis qui est en relation aussi avec le solstice, tu sais, qui est comme en opposition, on pourrait dire, avec le solstice d'hiver. Donc, tu sais, l'espèce de, ben, opposition, on pourrait dire, en reflet un peu, puis que lui, il est le moment, on pourrait dire, où c'est comme il représente la fin, tu sais, ou le début de la fin, tu sais, d'un monde. Puis là, après ça, le Christ représente le début d'un nouveau monde. Fait que je pense qu'il y a un lien avec les deux solstices, là, aussi. Là.
Ouais. Pendant qu'on est sur les deux solstices, une des choses que je demande aussi, c'est s'il n'y a pas, tu sais, une opposition voulue entre Saint-Jean l'apôtre puis Saint-Jean-Baptiste. Parce que la fête de Saint-Jean l'apôtre, c'est aussi comme, je pense, le 27-28 décembre. Ouais. Là, c'est à peu près 6 mois de différence.
Oui, clairement. Moi, je pense que oui. Là. Je sais que j'ai déjà lu des articles qui parlaient de ça. C'est comme un peu les deux, on va dire les deux clés, là, ou les deux extrêmes de la manifestation. T'sais, dans le symbolisme chrétien, Saint-Jean, l'apôtre et Saint-Jean, Saint-Jean-Baptiste sont toujours à la gauche de Jésus. Fait qu'il y a comme ce lien-là aussi qui est intéressant. À la croix, on voit que c'est Saint Jean, l'évangéliste, qui est à la gauche de Jésus sur la croix. Marie est à sa droite. Puis dans la D6 traditionnelle, où on voit Marie à la droite encore, puis Saint Jean-Baptiste à la gauche. Hein. Fait que, il y a quelque chose. En tout cas, oui, il y a quelque chose aussi avec le, on pourrait dire, celui qui est comme loin. Puis celui qui est proche, il y a un lien avec ça. Puis aussi, il y a un lien avec le tombeau aussi, qui est parce que, tu sais, Saint-Jean-Baptiste, c'est celui qui meurt avant que Jésus meurt. C'est pour ça que dans l'icône, par exemple, de la descente aux enfers, une des personnes souvent qu'on représente dans les enfers, c'est Saint Jean-Baptiste. C'est-à-dire, lui, il était dans la mort. Puis là, fait que là, il a préparé les gens aussi là, comme pour que le Messie arrive. Le Messie arrive, puis là, on le voit qu'il est dans l'icône. Là. Tandis que Saint Jean l'apôtre, lui, il a toute la légende comme quoi il n'est pas mort. Là. C'est le seul qui n'est pas mort martyr, tout ça. Fait qu'il y a clairement, un pattern entre les deux.
Oui, ouais, c'est intéressant. Je n'avais pas pensé au tombeau.
Puis le fait qu'il va jusqu'au tombeau, mais il rentre pas dans le tombeau. De toute façon, moi, je n'ai jamais compris cette histoire-là. Je pense pas que je peux la comprendre. C'est clairement important. C'est clairement important. Mais j'ai jamais lu quelque chose que j'ai trouvé satisfaisant par rapport à ce mystère-là.
Sur l'aspect du solstice d'été, qu'est-ce que tu dis aux gens qui voient que le Saint-Jean-Baptiste, dans le fond, c'est surtout une fête païenne qui a été reprise de solstice d'été?
Je sais pas, je trouve ça ridicule. Je sais pas pourquoi. Tu sais, l'idée qu'une fête qui fête les astres, les choses qui se promènent dans le ciel, c'est l'idée que le jour le plus long de l'année, que c'est païen. Je sais pas, c'est Dieu qui a créé le monde. Là. C'est rien de païen là-dedans. T'sais, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait des festivals des premiers fruits là, quand ils commençaient à prendre la récolte. Puis c'était totalement normal d'avoir un festival de la récolte. Alors, puis il y avait aussi, les Juifs avaient Yom Kippour, pas Yom Kippour, mais plus tard, le Festival des Lumières, c'est quoi? J'ai oublié le festival, c'est quoi non, le Festival des Lumières? Il y a un Festival des Lumières qui est lié avec les Maccabées, tu sais. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est lié avec la notion de Jérusalem qui est attaquée, puis qui ont réussi à préserver la petite lampe, tu sais, qui a brûlé pendant le mois de fin décembre, début janvier. Mais tu sais, c'est clairement aussi relié au solstice. C'est clairement relié à la journée la plus courte, la journée la plus sombre, puis la lumière qui est préservée puis qui est révélée à la fin. Fait que, tu sais, tout ça, c'est l'idée que de fêter une fête, l'idée que nos fêtes chrétiennes ont un lien aussi avec ce qui se passe au niveau cosmique, que ça, c'est païen. C'est vraiment les lumières là, qui parlent. Là. C'est pas le cosmos chrétien.
Ça n'a pas pensé que le monde est comme fondamentalement intelligible puis plein de sens. Là. C'est pas surprenant que les patterns qu'on trouve dans la Bible, ce soit les patterns qu'il y a dans la création aussi, là, puis qui finissent par se regrouper de certaines façons. Un autre aspect que j'aimerais bien comprendre, c'est le baptême. C'est quoi la distinction entre le genre de baptême que Saint Jean fait versus ce que Jésus et ses apôtres vont faire ensuite?
Ouais, mais c'est assez mystérieux parce que, tu sais, le baptême, en tout cas dans la Bible, on voit pas ce rite-là. C'est vraiment, en tout cas dans la Bible comme telle, on voit la première fois qu'on voit ce rite-là, le rite de baptême, c'est quand Saint Jean-Baptiste le fait. Tu sais, c'est pas qu'il y a pas des... il y a des choses qui précèdent ça, par exemple, tous les rites de purification, c'est-à-dire quand les gens entraient dans le temple, ils devaient faire des ablutions, tu sais, ils devaient se laver pour pouvoir aller dans le temple. Donc, il y avait comme une sorte de rite de purification qui arrivait avant d'aller offrir ton sacrifice. Il y a aussi toutes les images de la traversée des eaux qu'on voit spécialement celle où l'Arche de l'Alliance doit traverser le Jourdain avant d'arriver de l'autre côté. Fait qu'il y a plein de choses qui précèdent le rite du baptême, mais c'est dans la Bible, c'est la première fois qu'on le voit comme ça. Ça veut dire qu'il est à l'extérieur de la ville, puis là, juste pour rentrer, on pourrait dire moi, j'imagine toujours quand même que les gens étaient de l'autre bord de la rivière, c'est qu'ils étaient du bord externe, puis que là, Saint-Jean, il les amenait à l'intérieur, vers Jérusalem, puis c'était comme une sorte de changement de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pour ça qu'on fait les baptêmes, par exemple, dans le narthex. En tout cas, je pense même aussi dans les églises catholiques aussi, c'est à l'entrée de l'église qu'on a le baptistère. Et donc, les gens, ils étaient baptisés, tu sais, à l'entrée, disons, de l'église, ou peut-être pas dans le narthex, mais juste, soit dans le narthex, ou soit juste à l'entrée, après le narthex. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est ça. J'ai l'impression que la différence, on pourrait dire, entre le baptême de Saint-Jean et le baptême du Christ, c'est que le baptême de Saint-Jean, il est comme une sorte de purification. Tandis que le baptême de Jésus, il inclut la chrismation, là, il inclut ce que les catholiques
appellent
la confirmation. Donc, il inclut l'esprit qui descend. T'sais, donc, quand tu te baptises en Christ, tu fais tout ce que Saint-Jean a offert, c'est-à-dire de transfert, de purification, mais il y a aussi que tu deviens carrément le temple du Saint-Esprit, là, tu deviens l'arche de l'Alliance toi-même, puis là, tu reçois sur toi le Saint-Esprit, t'sais, l'Esprit de Dieu descend sur toi comme il est descendu sur l'arche, etc. Et donc, j'ai l'impression que c'est pour ça que c'est un baptême plus complet, parce que ça l'a aussi, ça finit avec la descente du Saint-Esprit. Parce que c'est mon intuition. Là.
Mm-hmm. Un aspect que je trouve dur, mettons, des paroles de Jésus par rapport à Saint-Jean-Baptiste, là, c'est, ou par rapport à l'Ancienne Alliance, on peut dire, là, c'est quand il dit que Saint-Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux avant le royaume des cieux, puis le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Saint-Jean-Baptiste. Et je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus. Moi, je trouve ça quand même choquant. Là, comme...
Oui, mais c'est à la rapport avec ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce qui s'en vient, c'est carrément que chaque personne devient un temple dans lequel l'Esprit de Dieu va vivre. T'sais, et donc, le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui descend sur nous puis qui nous remplit, ça veut dire qu'on est, tu sais, on vit dans la vie de Dieu. On a la vie de Dieu restaurée en nous, puis on a la possibilité d'être défié. Tu sais, on a la possibilité de participer à la nature divine, comme Saint-Pierre dit. Je pense que c'est ça que Jésus veut dire, tu sais, qu'une personne qui est dans le royaume, c'est-à-dire qui est carrément dans la vie de Dieu sur terre, ben cette personne-là a l'accès à plus que Saint-Jean. Mais tu sais, en même temps, comment je pourrais dire, c'est-à-dire, tu sais, surtout dans la tradition chrétienne, tu sais, l'idée que quand le Christ est allé dans les enfers puis qu'il est allé rescaper les gens perdus, tu sais, on sait que finalement, Saint-Jean, il participe aussi au royaume de Dieu, là, tu sais, au royaume.
Oui. Sur un aspect que ça vaut la peine de parler un peu parce que ça va être important pour parler du Québec, je pense, c'est la décapitation de Saint-Jean-Baptiste. Tu l'as évoqué un petit peu, là. Comment est-ce que Saint-Jean-Baptiste est enlevé et qu'il ne voit pas, disons, la fin du monde qui est en train de justement d'attaquer?
Oui, oui, oui. C'est sûr qu'il y a un lien entre la décapitation et Élie, là. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est-à-dire que Jésus dit que Saint-Jean, c'est le Élie. Parce qu'il y avait une tradition. Je ne sais pas c'est dans quel livre prophétique qui dit que avant le Messie. Va venir Élie. Fait que là, les gens demandent, tu sais, à Jésus, ils disent, c'était qui? T'sais, c'est toi le Messie, d'abord, c'est qui l'Élie qui devait venir avant le Messie? Puis là, Jésus dit, si vous êtes prêts à le recevoir, parce qu'il sait que c'est pas évident ce qu'il va dire. Si vous êtes prêts à le recevoir, il dit, c'est Saint-Jean-Baptiste, le Élie. Mais puis moi, j'ai toujours eu l'intuition que sa décapitation, c'était son ascension. C'est une version de l'ascension au ciel. Puis ça, tu sais, je sais que ça, pour les gens, ça va sembler vraiment bizarre comme chose à dire, mais c'est parce qu'il y a déjà, dans l'Ancien Testament une sorte de présupposition. Ben, ça suggère un peu ce symbolisme-là. Puis ça, je viens de faire une vidéo là-dessus en anglais. Là, je ne sais pas si tu l'as vu, mais tu sais, où je parle de la décapitation. C'est-à-dire que dans l'histoire de Joseph, il y a deux personnages. Quand Joseph est en prison, il interprète le rêve de deux personnages. Puis c'est le chef du boulanger, puis le chef boulanger, puis le chef de vigneron, le chef du vin. Puis quand on dit chef, là, c'est vraiment la tête. Il faut vraiment comprendre comme ça, c'est le même mot. C'est-à-dire, c'est la tête de la boulangerie, puis c'est la tête de la vigne. Pas de la vigne, mais du vin, disons. Puis là, le pharaon, il met les deux en prison. Puis là, les deux, ils ont des rêves vraiment bizarres. Puis il y en a un qui rêve que sur sa tête, il y a comme trois paniers de pain. Puis là, il y a des oiseaux qui viennent manger les pains. Puis l'autre, il rêve, je ne sais plus c'est quoi qu'il rêve exactement, mais il rêve aussi un truc par rapport à trois, puis qu'il y a la coupe. En tout cas, ce que Joseph lui dit, c'est que celui qui avait les trois paniers de pain que les oiseaux sont venus enlever, c'est-à-dire que le pharaon va lever sa tête, mais c'est à sa mort. Puis que l'autre, ce qui avait la coupe, que le pharaon va aussi lever sa tête, mais qu'il va lever sa tête dans le sens qu'il va le ramener dans le château, puis il va le faire participer à la gloire du roi. Tu sais. Fait que l'idée d'une sorte d'ascension, puis de la tête qui est comme levée, on pourrait dire, c'est déjà là dans tout le, dans ce symbolisme-là. Fait que j'ai l'impression, moi, que c'est ça que Saint-Jean-Baptiste, ça représente. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de version, c'est pas exactement la même chose, mais une sorte de version de, ce, de l'ascension de la tête, alors, comme tu dis, avant que le monde finisse, là.
Puis, il y a des liens avec d'autres prophètes, là, parce que il y a quelque chose comme ça avec Enoch qui se fait enlever au ciel avant que la ville soit détruite. Puis,
oui.
C'est Élie aussi avant de passer le manteau à Élisée. Comme,
oui, ça, mais Élie aussi, c'est à la fin du royaume du Nord. Là, c'est important de comprendre là, que Élie, il part, on pourrait dire, avant que le royaume du Nord d'Israël est détruit. Enoch, lui, part avant la fin du monde que dans le déluge. Mais il y a aussi ça, tu vois, c'est tellement important dans le symbolisme que, tu sais, même des choses qui ne sont pas dans la Bible, ils reviennent après, comme par exemple, tu sais, l'idée que Moïse meurt c'est sur la montagne avant d'entrer à Jérusalem, puis que personne ne sait où son corps. Mais là, ça revient dans le Nouveau Testament, tu sais, dans l'épître de Jude, où ça dit que Saint-Michel et le diable se sont combattus pour son corps. Que c'est Saint-Michel qui a gagné, dans le fond. Fait que ça veut dire que Saint-Michel, il a amené son corps avec lui. Fait qu'il y a comme, il y a encore, c'est-à-dire à cause que Moïse ne peut pas rentrer dans la terre promise, bien c'est comme si avant, il faut qu'il y ait une ascension avant le nouveau monde. Fait que c'est super intéressant, tu sais, que même si dans l'Ancien Testament, c'est pas là, dans le Nouveau Testament, il rapporte une tradition pour dire que le corps de Moïse a été amené. C'est probablement en partie pour ça aussi qu'il peut apparaître à la transfiguration en passant. Fait que c'est comme un pattern comme tu sais qui revient. Et donc, on le voit, moi je pense que ça c'est comme une petite version de ça dans Saint-Jean-Baptiste, mais qui est totalement comme amené ensemble dans l'ascension de Jésus. Là, l'ascension de Jésus, c'est vraiment la finale de ça, là, où ça implique une sorte de décapitation. Là, c'est bizarre de penser à ça. Que l'ascension, c'est comme une sorte de décapitation. Parce que tu sais, je pourrais te poser la question par rapport à dans l'histoire de Joseph, puis les deux personnages. Tu sais, tu poses la question, Jésus, c'est lequel? Jésus, il est-tu le chef de boulanger qui perd sa tête? Ou est-ce qu'il est le chef pour mourir, que sa tête est levée puis qu'il meurt? Parce qu'il ne perd pas sa tête dans l'histoire, il est pendu à un poteau. Fait qu'il est crucifié, dans le fond, tu sais. Puis là, où est-ce qu'il est le chef avec la coupe que sa tête est levée, mais qui se met au service du roi?
Ouais, puis le pain et le vin en plus.
Jésus, il est les deux. Ouais. Jésus, il est carrément les deux dans l'histoire. On voit clairement qu'il est à la fois crucifié et à la fois, et sa crucifixion, c'est une élévation. Et donc, Jésus, sa décapitation, on pourrait dire, quand Jésus, la tête de l'Église, monte au ciel, puis il laisse l'Église en bas, bien là, c'est tout le symbolisme est comme amené ensemble, où on voit que c'est à la fois, c'est une séparation qui est une union. C'est-à-dire, à cause que la tête monte au ciel, bien le corps qui est ici, il grandit, il devient comme, c'est comme s'il peut devenir encore plus grand, parce que la tête est tellement haute, tu sais.
Ouais. Il y a un parallèle que j'ai l'impression qu'il y a, mais que je comprends pas là, avec ce que tu dis, puis le fait qu'il y a aussi l'assomption de Marie, là, où elle est aussi enlevée d'une certaine façon, mais elle, c'est après qu'elle meurt, puis c'est pas nécessairement comme pour, je sais pas, l'empêcher de voir quelque chose. Je sais pas comment je le dirais. J'ai l'impression qu'il y a un parallèle, mais
elle,
c'est pas pareil.
C'est parce que elle, c'est la résurrection du corps. Elle, c'est comme un... Tu sais, Marie, c'est comme une prémisse de notre résurrection. C'est pas la même chose. Tu sais, Jésus, il est l'homme Dieu, là. Fait que là, quand il monte au ciel, tu sais, oui, il y a son corps qui monte avec lui. Fait que c'est comme il est la totalité de ça. Mais quand on voit Marie qui aussi monte au ciel, c'est pour ça qu'on le voit. C'est pour ça que dans l'imagerie catholique spécialement, là, tu sais, on voit Marie qui monte. Mais là, après ça, elle est couronnée. Puis ce couronnement-là, ben c'est la même couronne qu'ont les martyrs, c'est la même couronne qu'ont les gens qui vont ressusciter à la fin des temps, là, la couronne des rois qui est amenée, tu sais, toutes ces couronnes-là. Puis, fait que moi, je le vois surtout comme ça, là. C'est comme un mariage, là, c'est comme la Jérusalem céleste, dans le fond.
C'est bon. Mais je pense que ça fait le tour du symbolisme fondamental de Saint-Jean-Baptiste. Puis là, je me tournerai vers le Québec. À
C'est
moins que
quoi le
tu...
rapport avec le Québec?
Mais on peut parler de, tu sais, d'où la fin vient, là, puis je pense qu'il y a des éléments qui vont ressortir au moins, là. Il y a des choses que tu sais, tu vas sûrement allumer que moi je vois pas encore, mais on va au moins essayer d'en parler. Fait que, tu sais, la fête en tant que telle de Saint-Jean-Baptiste, ça fait longtemps qu'il y a des chrétiens qui célèbrent ça, là. Ça remonte à il y a très longtemps. Puis si c'est vrai, c'est sans doute vrai que ça a repris des éléments de fête païenne qui se passaient aussi à ces moments-là. Comme des trucs assez naturels, là. Je sais pas, de faire des, d'allumer des feux. Par exemple, la nuit du solstice, ben, la nuit du 23 au 24, par exemple, pour un genre de vigile de Saint-Jean-Baptiste, c'est assez naturel, de, comme prolonger encore la lumière ou comme.
C'est ça. C'est comme si on veut, c'est comme si on sait que c'est comme si on sait que les jours vont raccourcir et donc on fait un feu pour, t'sais, pendant la nuit pour dire non, la lumière est encore là. T'sais, il y a comme un, ouais, comme t'sais, pour prolonger la lumière, là.
Fait que ça fait longtemps qu'il y a des chrétiens qui font ça. Mais c'était pas une fête célébré spécialement par les Canadiens français jusqu'en 1834. Fait que
OK.
là, 1834, on est après la conquête britannique, puis il commence à avoir du mécontentement chez les Canadiens français parce qu'il y a des mesures par les Britanniques qui font que ben les Canadiens français sont disons, pas autant représentés qu'ils voudraient au gouvernement, puis il y a tout le temps les conflits catholiques versus protestants, puis tout ça, c'est... Il commence à avoir le mouvement des patriotes qui va, quelques années plus tard, t'sais, mener à la répression des patriotes, le rapport de Rome, etc. Mais en 1834, c'est Ludger Duvernay qui a eu l'idée de faire une fête nationale pour les Canadiens français. Au début, ça commence avec un banquet, comme ils célèbrent la Saint-Jean-Baptiste en invitant plein de personnes notables de la culture canadienne française. Puis ils font des toasts sur un paquet de choses. Le but, c'est comme de célébrer les Canadiens français pour essayer de les unir. Puis semble prendre la figure de Saint-Jean-Baptiste comme c'est un prophète qui crie dans le désert, comme l'image des Canadiens français qui crient un peu comme au reste de l'Amérique du Nord, qui sont, tu sais, surtout protestantes. Puis, je pense qu'il y a aussi, après ça, des associations intuitives, là, que je sais pas si tout le monde faisait, mais l'idée d'avoir un prophète sauvage, là, dans l'Amérique du Nord, c'est aussi quand même naturel. Je pense aussi pour les Canadiens français, le fait que Saint-Jean-Baptiste part du temple, part de Jérusalem puis s'en va dans le désert. C'est aussi relié au fait que les Canadiens français partent de la France, là, qui était la fille aînée de l'Église. Il y a quelque chose comme aussi la chute là, qui se passe avec la Révolution française, 150 ans après la fondation du Canada français. Puis après, donc là, il y a d'autres choses à dire, mais je vais parler un petit peu comme encore de la généalogie de ce qui s'est passé. Donc, ça commence à être célébré comme avec un banquet du 134. Puis après ça, on encourage les Canadiens français en général à célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Puis ça catch assez vite, là. Les gens sont
Ça
contents de
accroche.
célébrer
Oui,
ça.
ça, les gens, intuitivement, ils voient que c'est bon.
Puis après ça, ben, il va y avoir la Révolution des Patriotes en 38. Puis après, ça va être écrasé par les Britanniques, rapport de Rome. Donc là, il n'y a pas de fête, tu sais, de Saint-Jean-Baptiste pendant quelques années, mais ça va reprendre en 1843. Puis c'est là qu'on va commencer à faire des défilés de la Saint-Jean-Baptiste, qui sont devenus très, très populaires jusqu'à temps que ça arrête. En fait, peut-être qu'ils en font encore, mais c'est plus ce que c'était, là. Mais 1843, ça commence à faire des
Les
défilés.
défilés, c'était quoi les défilés? Qu'est-ce qu'il y avait dans les défilés, est-ce que tu sais?
Ouais, ben, il y avait... Entre autres, une chose qui est devenue comme assez iconique, là, je pense pas que c'était début que ça a commencé comme ça a comme grossi, mais des choses qui étaient le plus iconiques, c'était il y avait une statue de Saint-Jean-Baptiste, puis il y avait aussi un petit garçon qui était comme qui faisait Saint-Jean-Baptiste. Il prenait toujours un petit garçon blond bouclé, puis avec un agneau. Fait que t'avais comme ces deux images-là. Il y avait comme la statue du grand Saint-Jean-Baptiste, puis il y avait aussi le petit garçon blond.
Garçon.
Puis ça a arrêté assez tard, là. Je pense à la Révolution tranquille que ça. Dans les années 60, ils ont arrêté de faire le petit garçon. Puis je vais parler de comment ça a arrêté la statue aussi plus tard. Puis là, on se rappelle en 1843, dans ces années-là, les Canadiens français, parce que les Britanniques veulent les assimiler, se tournent vers la religion comme un peu par nécessité, comme une des choses qui restent, là. Puis le nationalisme Canadiens français, puis la religion, ça devient très, très imbriqué. Puis je vois pas ça de façon cynique du tout, là. Je pense, en fait, selon beaucoup de personnes que j'ai lues, au moins comme au début de ce mouvement-là, les Canadiens français comme ont vraiment une quête spirituelle, puis ça va porter des fruits de ces politiques concrets après très positifs, mais ça commence vraiment par un genre de repentance puis de piété légitime. Puis la fête de la Saint-Jean-Baptiste continue d'être populaire. Après ça, on peut parler d'un moment où officiellement Saint-Jean-Baptiste est devenu le patron des Canadiens français. Je ne sais plus c'est qui l'a fait, mais ça a été une requête qui a été faite au Vatican. Puis en 1908, c'est le pape Pie X, c'est Jean Hurien, qui a, je ne sais pas sûr c'est quoi le terme exact, là, comme dédié, qui a comme reconnu, qui a attribué que le patron des Canadiens français, c'était officiellement Saint-Jean-Baptiste. Fait que pas juste au Québec, mais c'est tous les Canadiens français en Amérique.
Et les Québécois, après, plus tard, ils ont développé une sorte de vénération vraiment particulière à Saint-Joseph, là, qui est assez particulière apparemment à l'époque moderne, puis aussi aux Canadiens français. Là, on voit qu'il y a comme une sorte de truc par rapport à Saint-Joseph.
Ça, il faudrait réfléchir. Je pense que c'est le patron du Canada. Si je me rappelle bien.
OK, c'est ça. Fait que les Canadiens français, c'est encore Saint-Jean-Baptiste,
oui? Ouais, je pense que oui. Je pense encore ça, oui.
Mais ce qui est intéressant par rapport à Saint-Jean-Baptiste, que je trouve fascinant, c'est que, tu sais, Saint-Jean-Baptiste, tu sais, il est comme un peu aussi de l'autre côté de l'eau, là, tu sais, puis il critique l'autorité. Tu sais, ce que tu as dit par rapport à la Révolution française, c'est assez intéressant aussi. C'est que Saint-Jean, il critiquait Hérode, puis il critiquait l'élite d'Israël, l'élite des Juifs. Pour leur débauche, pour leur décadence et tout. Ça, c'est assez fascinant. L'autre aussi chose qui est fascinante, c'est que, tu sais, Saint-Jean, il fait un avertissement, tu sais, il dit « Restez attachés au cep, tu sais, repentez-vous. » Puis il dit « Restez attachés au cep, sinon vous allez être coupés, tu sais, vous allez être coupés, puis vous allez être jetés au feu, tu sais. » Puis c'est intéressant par rapport aux Canadiens français parce que, tu sais, les Canadiens français, ils sont tellement en danger constamment. T'sais, on est en danger, on est entouré de 400 millions d'anglophones, tu sais, puis on est constamment en danger de disparaître. Puis donc, tu sais, l'idée d'avoir un patron comme ça qui est tellement aride, qui vit dans un monde aride, dans un monde hostile, puis qui dit aux gens, tu sais, restez attachés. Restez attachés au Christ, sinon vous allez être coupés puis tous vos efforts vont disparaître. C'est assez fascinant parce que ce qu'on voit, c'est que depuis, je ne sais pas, ça fait combien de décennies, là, il y a vraiment un mouvement pour probablement arrêter d'appeler la Saint-Jean-Baptiste, de simplement l'appeler vaguement la fête nationale du Québec. Et donc maintenant, on est rendu là où on a la fête nationale du Québec. Puis tu sais, si on est un peu attentif, on sait très bien que dans deux générations, si on continue comme ça, il n'y en aura plus de fête nationale des Canadiens français ou du Québec. Ça va juste disparaître, tu sais, parce qu'on a, comme abandonné notre amour premier. Là, on a abandonné la chose qui faisait qu'on tenait ensemble, la chose qui faisait qu'on était un peuple, là.
Ouais, on peut parler de comment ça s'est terminé, là. J'avais pas fini de répondre, c'est vrai, à la question plutôt que tu avais demandé sur le défilé, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Mais c'était aussi, c'est une procession religieuse, là, avec des prêtres, l'Eucharistie et tout.
Ouais, j'imagine que ça commençait à l'église, puis là, ça partait de l'église, puis là, il y avait une procession dans la ville. Ouais.
Puis, comme une des façons dont ça a arrêté d'être associé à l'Église catholique, c'est en 1969, je pense déjà là, il n'y avait plus le petit Saint-Jean-Baptiste. Là. C'était déjà comme trop, peut-être trop dans la Révolution tranquille pour que ça passe. Il y avait encore la statue. Puis en 69, il y a des manifestants anticléricaux et indépendantistes qui ont renversé le char avec la statue de Saint-Jean-Baptiste. Puis quand la statue a tombé, ça l'a décapité. Là, la statue a perdu sa tête.
Il a perdu sa tête.
Ouais. Puis ils sont partis avec, puis on ne sait pas où encore.
Ah ouais?
Ouais. Ouais.
C'est vraiment incroyable, cette histoire-là.
Puis, depuis ce temps-là, il n'y a plus de statue de Saint-Jean-Baptiste à la fête, pendant le défilé de Saint-Jean. Ouais. Ouais.
Mais il y en avait-tu juste une? C'est-à-dire, c'était où la procession?
C'était à Montréal. Celle-là, c'était à Montréal. Il y avait sûrement d'autres fêtes ailleurs, mais je pense qu'après ça, c'était fini.
Mais la procession avec la statue, c'était connu pour être à Montréal.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que là, des styles FLQ un peu, là, ils ont fait chavirer le char.
Ouais.
Ils ont pris la tête.
Ouais.
Ouais. Ben bravo. En tout cas, ils ont réussi, hein? Ils ont réussi ce qu'ils voulaient. Ils ont eu la tête de Saint-Jean-Baptiste. Puis là, les Canadiens français vont disparaître.
Ouais. Puis, techniquement, vu que tu avais mentionné le fait que c'est en train de disparaître, c'est en 77, je pense que c'est René Lévesque qui a comme rebaptisé la fête. Comme, mm-hmm. Ça restait la fête, un congé férié et tout, mais maintenant, c'était rendu une fête séculière, comme inclusive.
Ouais, mais ils appelaient ça la fête nationale ou ils appelaient encore ça la Saint-Jean-Baptiste?
Je pense que c'était rendu fête nationale,
oui. Ah oui, parce que moi, quand j'étais jeune, on disait encore Saint-Jean-Baptiste. Puis c'est juste dans les dernières années, j'ai commencé à voir la propagande du gouvernement, où il y a carrément des affiches qui disent « fête nationale, mm-hmm. nationale », c'est pour comme essayer de casser le fait que les gens appellent ça la Saint-Jean. Ouais.
Mais nous, on dit encore, la plupart des gens...
Le peuple, il ne va jamais arrêter d'appeler ça la Saint-Jean. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le gouvernement peut faire ce que vous voulez. Vous savez pas, quand on dit « je me souviens », c'est je me souviens », le seul qui existe, c'est celui qui est inscrit dans la mémoire du peuple, celle qui est comme totalement réflexive, que c'est impossible d'enlever. Ça en est un. Autant qu'il va y avoir la fête nationale le 24, ça va être la Saint-Jean-Baptiste, ce qui peut arriver, c'est que la fête va disparaître complètement parce que les gens, il n'y en aura plus assez, puis d'autres personnes vont avoir pris le pouvoir dans notre pays. Là.
Puis, d'autres aspects, je pense, qui font que, intuitivement, la fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste, c'est fait avec le Québec, je pense que c'est une des grosses raisons pourquoi la fête est comme devenue très populaire pendant le 19e siècle. C'est parce qu'il y avait beaucoup de Québécois qui se sont mis à voir le rôle de la nation canadienne française comme étant un genre de prophète en Amérique. Comme d'être la seule nation catholique en Amérique du Nord qui devait comme rayonner puis amener comme tout le reste de l'Amérique à se repentir. Mais une des raisons pourquoi aussi, c'est vrai, il y avait la fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est que c'est une fête que les protestants ne célébraient pas. Puis surtout ouais, pas avec ça. Des statues, puis des défilés, puis des processions eucharistiques, puis tout. Donc, c'était un genre d'opposition, tu sais, prophétique en Amérique du Nord.
Oui, ça, c'était clairement quelque chose qui distinguait les protestants des catholiques à l'époque, où surtout, comme tu dis, une procession avec une statue et tout. Le fait que c'était pas une fête, disons, dans les fêtes de la vie de Jésus, que les protestants, peut-être certains, célébrent encore. Non, c'est assez fascinant. Ouais.
Je me demande aussi, tu sais, s'il n'y a pas l'idée encore de transition, là, où... c'est sûr, on a mentionné qu'il y a la Révolution française qui va se passer en Europe. Mais aussi, c'est plus tard, au 20e siècle, comme le monde de l'Europe, c'est comme terminé, là. Depuis Première et Deuxième Guerre mondiale, veut pas, c'est rendu comme l'Amérique, là, le centre du monde. C'est surtout les États-Unis, mais reste qu'il y a eu cette transition-là qui s'est faite. C'est encore intuitif, là. Je pense que Saint-Jean-Baptiste est comme quitté l'ancien monde puis qu'il vient comme être un prophète pour commencer le prochain.
Ouais, pour être ici. Ouais, c'est assez... Oui, c'est assez fascinant, mais est-ce que les gens faisaient les feux à l'époque aussi, ou est-ce que ça, c'est plus récent? Parce que ça, faire des feux, c'est vraiment partout, là. Tu sais, quand tu vas, moi, je suis allé une fois, je suis en Norvège pour la 24, puis il y avait des feux de joie, là. C'était quelque chose qui était célébré un peu partout en Europe, les grands feux.
Oui, je pense que les gens l'ont toujours fait. Maintenant, c'est des feux d'artifice, mais au minimum, avant, les gens allumaient comme des feux le long des rivières, puis des choses. Je pense que ça avait été... repris même de France explicitement. Je me rappelle avoir lu ça. Là. Quand les gens se sont mis à fêter plus à Saint-Jean-Baptiste au Québec, ils savaient qu'en France, les gens faisaient ça des feux, fait qu'ils se sont mis à le faire ici aussi, naturellement.
Oui, mais dans les endroits qui sont très encore canadiens-français, moi, il y a certains endroits proches d'ici là, où ils font encore le feu de... Ils font pas juste le feu d'artifice, faut qu'ils fassent le feu de joie. Là. Puis quand j'étais jeune, ça faisait partie de la fête. C'est-à-dire, il y avait le feu d'artifice, puis là, après ça, on démarrait le feu de joie. Ici, à Saint-Placide, souvent, on va à Saint-Placide ici pour fêter la Saint-Jean. Là, puis en fond, il est immense, là, tu sais, il est vraiment immense. Puis les pompiers viennent, puis les pompiers sont là, tu sais, pour le feu, puis ils sont toujours prêts à l'éteindre, là, si jamais il y a un problème.
Je ne me rappelle pas s'ils le font encore à Québec, mais sur les flammes d'Abraham, ils en faisaient un gros aussi. Là. Puis même, je pense qu'il y a quelqu'un qui était mort comme au début des années 2000 parce que la fête était rendue complètement dégénérée. Là, et plein de gens qui étaient sous et tout. Puis il y a quelqu'un qui avait été brûlé vif. Je pense qu'il était sous et tombé dans le feu, là, quelque chose comme ça. Là. Fait que là, depuis ce temps-là, le gouvernement a comme serré la vis avec raison. Là. Effectivement, c'était comme naturel que même si tu désacralises et tout, les gens ont quand même continué de faire les aspects naturels de la fête. Là.
Oui, c'est ça. Ah, mais c'est très fascinant de voir. En tout cas, on espère que Saint-Jean-Baptiste est pris pour nous, hein, ça, c'est sûr.
Oui. Mais c'est bon, j'ai rien d'autre à dire là-dessus aujourd'hui. Au minimum, je trouve que il y a des. Il y a assez de parallèles intéressants entre le Québec et Saint-Jean-Baptiste que je suis pas si surpris que ça ait collé, mais il y a encore des aspects que je comprends pas. Sauf que c'est pas.
Ouais, mais s'il y a des Québécois qui nous regardent, la Saint-Jean-Baptiste, c'est le moment dans l'année que vous avez pour rappeler certaines choses aux gens. Puis que ça serait des moments comme ça où il y a certains attachements, tu sais, à la foi chrétienne, pas des Québécois qui pourraient être accessibles, tu sais. Je ne sais pas exactement comment faire, mais c'est un des moments. Il y a certains moments dans l'année, il y a Noël, peut-être, puis la Saint-Jean-Baptiste, ça en est encore un. Comme j'ai dit, les gens, ils ne vont pas arrêter d'appeler ça la Saint-Jean-Baptiste. Fait que c'est possible, dans ces moments-là, de rappeler aux gens c'était qui ce personnage, puis c'est quoi qui nous amène. Mais peut-être que des gens pourraient commencer à remettre des statues de Saint-Jean-Baptiste. Vous avez le courage, hein, dans votre fenêtre le jour de la Saint-Jean.
Parfait. Je pense que c'est une bonne note sur laquelle finir. Je vais essayer de sortir cette vidéo-là pour la Saint-Jean en tant que telle. Donc, bonne Saint-Jean à tous les Canadiens français, puis on se reverra dans quelques semaines pour le prochain.
Bonne
Bye bye.
Saint-Jean, tout le monde.